Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
Et un jour, on est avec un ami devant le lycée, du coup, qui est en train de fumer sa cigarette et il jette son mégot par terre. On s'est dit, il faut trouver un truc.
Chaque problème, sa solution. J'ai pu travailler dans une entreprise qui m'a demandé d'être technicien sur les imprimantes 3D résine. Ces imprimantes ont permis de créer ce produit.
Donc cet objet, en fin de compte, il vient se glisser sous le paquet de cigarettes pour pouvoir mettre en gros ces mégots à l'intérieur.
Et ça vous a donné envie de créer une entreprise ensemble ?
C'est ça.
Et tout ça, t'as toujours 17 ans en fait. Enfin, dans tout ce qu'on se raconte là, t'as toujours 17 ans en fait.
Je viens tout juste d'avoir 23 ans. J'ai cofondé une néobanque pour les jeunes. Je pense que quand on est entrepreneur, on l'est pour tout le temps. On a commencé aujourd'hui avec ça et je pense que si à un moment ça vient à finir, je pense que oui, je remonterai quelque chose.
Ben, on a lancé notre entreprise, nous. Personnellement, j'avais 20 ans et Léa en avait 19.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans son projet ?
De partir dans un nouveau projet, justement, et puis de se lancer dans une nouvelle aventure.
J'ai démarré auto-entrepreneur à mes 16 ans. Moi, j'achetais la coque 1 euro, tout comme les grandes surfaces achetaient 1 euro. Mais je la revendais pas 5 ans, je la revendais 10, ce qui me semblait déjà énorme.
Il y avait des coques partout dans ta chambre ?
Il y en avait jusque dans la salle de bain, en dessous de la machine à laver, etc. C'était un peu une galère. On a fabriqué pratiquement 1 million.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des salariés ?
Aujourd'hui, on est nombreux. On est 12.
Il y a quelque chose que je trouve super chouette. Quand on vous écoute, c'est vrai que l'énergie de cette jeunesse permet toutes les audaces. Bonjour à tous et merci d'être avec nous une nouvelle fois cet après-midi sur France 2. On va faire la connaissance tous ensemble de 6 jeunes absolument bluffants. À seulement 20 ans et parfois moins, ils sont devenus patrons de leur propre entreprise. Mais s'ils en sont arrivés là, aujourd'hui, c'est au prix de nombreux sacrifices. Ils vont nous raconter cette vie d'ado, pas comme les autres, les nuits blanches, les doutes, les obstacles. Tout ça leur a donné une détermination à toute épreuve. Vous allez adorer leur énergie. Bienvenue à eux et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Ça va ?
Ça va.
Bien, merci.
On va dire la vérité. Vous êtes arrivés juste avant de commencer l'émission, tous les deux, Nathan et Léa, parce que rapport au pain qui n'était pas tout à fait prêt avant de partir de la maison, c'est ça ? À quel âge vous avez lancé votre entreprise, alors, tous les deux ?
Eh bien, on a lancé notre entreprise, nous. Personnellement, j'avais 20 ans et Léa en avait 19. J'allais avoir 21.
Parce que vous êtes aussi ce qu'on appelle un baby-couple. Je me dis que ça ne va pas vous plaire beaucoup, cette expression, mais c'est vrai que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
4 ans.
4 ans à seulement 20 ans.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Vous êtes rencontrés comment ? Parce que ça m'amuse aussi.
Alors, on s'est rencontrés. Ma mère était directrice d'un lycée.
D'accord.
Et malheureusement, le lycée avait un service. Il me semble que c'était une assemblée générale.
Ouais.
Et donc, du coup, le cuisinier, juste avant le service, s'est cassé le genou. Et donc, du coup, ma mère m'a appelé en urgence. Et c'est tombé pile poil le jour de mon jour de repos, quand je travaillais en apprentissage. Et donc, du coup, je suis allé dépanner le lycée de ma mère. Donc, j'ai fait toute la production qu'il y avait à faire pour le lycée.
Et bim !
Et donc, du coup, je l'ai vue en cuisine. Elle était en atelier cuisine.
Ah.
Et donc, du coup, après, on a discuté en cuisine un petit peu. Et puis, le soir, je suis allé au service parce qu'il manquait du monde aussi. Et donc, du coup, on a servi ensemble. Et puis, le courant est vite passé. Et puis, après, quelques jours après, on était déjà ensemble.
C'est difficile de se concentrer parce que vous nous avez apporté des mets de chez vous. C'est quoi ce que vous m'avez apporté ?
Il y a le pain d'épeautre.
Bon, on est à l'heure du café, mais ça ouvre à nouveau l'appétit. On va dire ça comme ça. On va partir un petit peu en image. On va découvrir votre aventure toute récente. Vous avez ouvert votre boulangerie, c'était l'été dernier. Vous êtes devenus donc tous les deux des chefs d'entreprise et vous avez accepté de nous ouvrir les portes de votre commerce. On part un petit peu chez vous. Comme ça, je peux manger en attendant.
Aujourd'hui, je vais me lever à 3h du matin. Je commence par mettre mes chambres de pousse en froid pour que le pain puisse prendre un peu de froid avant de partir au four. Ensuite, je me mets sur la cuisson du pain et viendra ensuite les croissants. Ce que j'aime dans le métier de boulanger, c'est de pouvoir être inventif, s'exprimer à travers des produits et souvent d'avoir des bons retours clients, c'est très appréciable. En tant que propre patron, c'est vrai que c'est agréable de n'avoir aucune barrière au niveau de la création. Si on a envie de faire quelque chose, on vérifie qui on a les moyens et puis on le fait. Le premier moment où on se voit, c'est le matin quand elle vient chercher les premiers produits qu'on a fabriqués.
C'est sûr qu'on envie les jeunes de notre âge, du coup, de pouvoir sortir, profiter, tout ça. Après, on a un petit peu profité aussi avant, mais c'est sûr que de passer du tout au tout, c'est un peu bizarre.
Faut que je les cuisine.
Travailler avec Nathan, c'est positif. On se comprend, donc ça va vite.
Moi, ça me fait très plaisir d'être avec ma compagne dans cette aventure. Si j'avais été tout seul, je pense pas que j'aurais pu tenir toutes les mésaventures qui nous sont arrivées.
Salut, grand, ça va ?
Ça va, et vous ?
Bon, ça va, nickel. Bien dormi ?
Emilien, c'est mon employé. Au début, ça m'a fait bizarre d'avoir un employé, surtout pour quelqu'un de son âge.
Ça va, les quiches, elles sont bien ?
Elles sont bien. Ouais.
Mais c'est toi, la quiche ?
Ah oui.
Étant donné qu'on a le même âge, c'est plutôt amical comme relation.
Vous avez fait les pâtés hier à Chevilly ?
Ouais, du coup, ouais. Le mouvement, c'était un peu compliqué pour lui, c'était rigolo d'ailleurs, ça m'a bien fait rire. Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'il n'arrive pas à me tutoyer en dehors du travail parce qu'il a pris une habitude et c'est compliqué pour lui.
Ça va, ils sont bien élevés ?
Ouais, c'est pas trop mal.
Être mon patron à mon âge, c'est le travail d'une vie, c'est de sacrifier énormément de choses. Mais c'est vrai que c'est gratifiant et les gens sont là pour nous le rappeler aussi.
Bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, 1 euro, s'il vous plaît.
Voilà, jeune fille.
Merci.
Je trouve que c'est bien qu'il y ait des jeunes qui viennent dans les villages comme ici. Au moins, ça fait des commerces qui tournent. C'est très, très bien. La jeunesse qui travaille, c'est magnifique, non ?
Et bonjour.
Salut, ça va ?
Ça va et toi ?
Oui.
Joël, c'est la vendeuse à mi-temps qui travaille avec moi. C'est une personne très sympathique, souriante, à l'écoute.
Bonjour, monsieur. Bonjour.
Je pensais pas que j'allais m'entendre si bien avec Joël et c'est tout de suite bien passé.
Tu m'as dit...
Là, c'est poulet curry.
Oui.
Et là, ton maillot.
Nickel.
Et j'appréhendais au début que je sois plus jeune qu'elle et elle l'a très bien pris. Bah, c'est un peu comme ma deuxième maman en soi parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble.
On va mettre les beignets peut-être.
Oui, j'étais en train de faire ça, j'ai eu le temps d'en mettre deux.
On s'aide mutuellement, on est complémentaires. Bon, c'est vrai qu'au début, je dirais les jeunes, voilà, moi, c'est comme ça. Mais non, ça a bien marché. Pour moi, c'est ma fille. Nathan et Léa, je me suis dit qu'ils avaient quand même pas mal de courage. Parce qu'à leur âge, prendre un commerce, franchement... chapeau.
J'ai découvert des côtés de Nathan que je connaissais pas. Surtout le fait qu'il lâche rien, qu'il soit motivé. Je le voyais pas forcément aussi battant pour son travail.
J'ai découvert chez Léa la persévérance. Parce qu'elle n'est pas du tout issue de ce milieu à la base. Donc je suis fier d'elle.
En avant.
Ça vous fait quoi de vous voir en image comme ça ?
Ça fait bizarre.
C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se voir de l'extérieur.
Ben non, c'est pas forcément rigolo. Facile. Hein. C'est émouvant aussi ?
Ouais, c'est vrai que c'est émouvant, surtout de voir les employés, puis de voir surtout son entreprise tourner extérieurement de ce qu'on voit tous les jours.
Et puis de voir ce que vous avez bâti. C'est quand même vous qui avez bâti ça. C'est fou à votre âge. Hein.
C'est vrai.
Ouais. Comment est née cette passion pour la boulangerie et la pâtisserie déjà ?
Moi,
c'était chez vous. Hein,
ouais, c'est de mon côté. À 15 ans, moi, j'aimais pas l'école. J'ai jamais eu de mauvaises notes. J'ai toujours été dans une moyenne entre 12 et 15. Mais j'aimais pas l'école. J'aimais pas. Ouais. Ça me plaisait.
C'est pas votre truc.
Voilà, c'est pas mon truc. Et puis, à 15 ans, j'ai fait un stage en 3e. Et je savais pas où partir, comme tous les jeunes. On se cherche un petit peu.
Ouais.
Et mon père travaillait à côté d'une boulangerie. Donc j'ai décidé de partir en stage une semaine là-bas. Et j'ai rencontré Guillaume, qui est mon ancien patron. Et ça s'est super bien passé. Et j'aimais déjà faire des gâteaux à la maison. J'aimais déjà faire. Pas mal de pâtisserie chez moi, avec ma grand-mère aussi. Mmh. Et donc, du coup, ça m'a tout de suite plu et il m'a proposé un apprentissage. Donc, à la fin de mon collège, j'ai eu mon brevet. J'ai pris des vacances d'été et puis après, j'ai tout de suite attaqué.
Vous vouliez mon absolument vous lancer dans votre propre entreprise tout de suite ?
Non.
C'est venu... Non, vous
c'est
avez venu... attaqué.
Donc, j'ai attaqué mon apprentissage.
Voilà. D'accord.
Donc, en 2 ans, j'ai fait mon premier CAP de pâtissier.
Ouais.
Ensuite, j'ai fait un CAP de boulanger pour être complémentaire.
Ouais.
Et puis derrière, j'ai fait des boulots à droite à gauche, remplaçant dans des boulangeries, dans des restaurants. J'ai vu aussi le monde de la cuisine. Arrivé en 2020, pendant le confinement, on tournait en rond, on ne savait pas quoi faire. Et cette idée me trottait dans la tête depuis mes 16 ans à peu près. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est peut-être le moment, qui tente rien à rien. Donc j'en ai commencé à en parler à Léa. Elle était au lycée et puis elle m'a dit, moi, je veux finir mon bac. Ouais. Donc je lui ai dit, pas de problème, on fait comme ça et si ça te dit, on se lance à deux là-dedans. Donc elle m'a suivi tout de suite, elle ne m'a rien refusé.
Qu'est-ce qui vous a séduit à part de rien refuser? Parce que Nathan dit, ça fait vraiment, elle ne m'a rien refusé. Ouais, okay. On a compris. Qu'est-ce qui vous a séduit dans son projet?
Alors moi, c'est le fait de découvrir autre chose, du coup, de partir dans un nouveau projet, justement, et puis de se lancer dans une nouvelle aventure.
Et le fait d'être avec lui, ça a joué?
Oui, oui.
Vous n'aviez pas peur de passer tout le temps ensemble?
Non, pas forcément, un petit peu, parce que forcément, après, on a moins de choses à se raconter, mais...
Bah oui, parce qu'on a vécu la même journée, quoi.
C'est ça.
Entre le moment où vous avez voulu vous lancer et le moment où vous avez concrétisé votre rêve, il s'est passé combien de temps? Et est-ce que ça a été simple d'avoir des aides quand on a 20 ans? Est-ce que c'est simple?
Alors, ça a été assez compliqué. C'est surtout au niveau bancaire que c'est très compliqué.
On ne vous fait pas confiance?
Non. En étant jeune, on ne nous fait pas confiance.
Il ne va pas être content.
Il faut absolument un garant adulte, même si je l'étais à l'époque. Il faut des apports qui sont colossaux. Pour des jeunes, c'est pas possible. J'avais un petit peu d'économie, mais pas assez.
C'est marrant, j'aurais cru l'inverse. Enfin, à tort, mais je me dis, comme vous avez la vie devant vous, les emprunts peuvent durer 25 ans. Donc, je me dis, c'est au contraire, la banque devrait encourager l'investissement, mais non.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, en France, on a le droit à quelques aides de la région, ce qui sont très difficiles à débloquer. Mais c'est beaucoup de papiers, c'est beaucoup de choses. Mais une fois qu'on les a, on a pu débloquer un petit montant pour nous aider aussi à se lancer. Et puis, il s'est passé, entre l'idée même et l'achat de la boulangerie, il s'est passé 8-9 mois.
Ça s'est bien passé au tout début, quand vous l'avez eu? J'imagine qu'il y a l'excitation et la fierté. Puis la réalité du métier?
Il y a l'excitation, il y a l'envie de commencer. Par contre, la réalité des choses arrive très vite.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était très compliqué au début.
La réalité, c'est d'abord le rythme?
C'est ça.
C'est-à-dire, vous vous couchez à quelle heure, vous vous levez à quelle heure?
On se couche à 22h, enfin 21h30, 22h, on discute une petite demi-heure, puis après on finit par se dormir.
Une demi-heure, parce qu'après on n'a pas le temps.
Après.
Oui, mais j'imagine, il y a le retour, et vous vous levez à quelle heure?
3h.
Ah oui, 3h, 3h. Du coup, vous vous sentez très isolé du reste de vos camarades? De vos copains?
Oui, un petit peu quand même.
C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une autre vie.
Bah oui, parce qu'eux, ils doivent sortir à 23h, et vous êtes couché à 22, quoi.
C'est ça. Donc, on tire un petit peu une croix sur les amis. Donc, c'est là qu'on voit les bons restes et les mauvais partent.
Ah ouais ? Et vous-même, le week-end, vous en profitez ?
Non, c'est très compliqué parce que le week-end, le lundi, on rouvre le mardi. Donc, il faut forcément travailler parce qu'il faut refaire la pâte pour le lendemain.
Et vous ouvrez le dimanche matin ?
On ouvre le dimanche matin.
Ah ouais, vous ouvrez tout le temps, quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est vrai que ça, ouais.
Voilà. Donc, on travaille moins longtemps le lundi. En général, c'est 2-3 heures. Mais c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a jamais la tête en dehors du travail. Ça arrive jamais.
Vous vous dites, je mets un pied dans la vie d'adulte, mais du coup, je ne prends pas forcément le temps de vivre ma vie de jeune, un peu nourrie, blanchie, logée à la maison. Vous avez écourté ça?
C'est ça. On a fait ça plus rapidement.
Pas de regrets?
Non, pas forcément. Attends. Un petit peu.
Ah, un petit peu quand même.
Oui.
Qu'est-ce qui vous crée ces regrets?
Le temps qu'on aurait pu profiter avant ensemble, c'est sûr qu'on n'en a plus aujourd'hui. C'est sûr, c'est là-dessus c'est le point noir. Puis aussi, puis voir ses amis, ça reste quand même...
Ça vous manque, ça.
Ouais, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez découvert l'un de l'autre pendant cette période?
Avec toutes les mésaventures qui nous sont arrivées, on a eu presque toutes les machines qui sont tombées en panne.
Oh là là.
Les congélateurs qui tombent, devoir jeter tout ce qu'il y a à l'intérieur, plus rien à voir au magasin. Puis d'un côté, moi, ça m'embête, mais les clients, c'est sur elles qui râlent après, parce qu'il n'y a plus rien dans le magasin. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes et toutes les machines sont tombées en panne, sauf le four. Et donc, du coup, ça fait des journées où on ne dort pas, on fait des nuits blanches. Parce que
vous avez suggéré cette période de stress?
C'est vrai qu'on a suggéré, comment, je ne sais pas, mais on a réussi.
Non.
On s'est soutenus tous les deux.
C'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a monter une boîte et puis il y a gérer tous les à côté, les stress, les angoisses. Et là, vous êtes très jeune aussi pour ça. Ouais. Il faut, quand on se lance, quand on est jeune comme ça, c'est important l'entourage?
Oui, très important.
Vous vous êtes senti épaulé?
Oui, on s'est senti épaulé. Nos parents étaient là, que ce soit de chaque côté pour nous aussi, et nous aider. Mais c'est sûr qu'il faut être grand dans sa tête. Il faut être prêt.
Il faut être costaud, quoi.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'à refaire, peut-être que vous attendriez un petit peu?
On attendrait un petit peu. On a de la chance, entre guillemets, je nous considère mature, mais c'est vrai que quelqu'un qui est encore trop enfant dans sa tête, ce n'est pas la peine pour lui.
Il ne tient pas la route. Et justement, ça se passe comment, puisqu'on parle de l'âge avec vos employés? Donc, Joël, qui est très jeune, Joël, ne paniquez pas. Elle a l'âge d'être, en effet, votre maman. C'est dur d'avoir de l'autorité, entre guillemets, ou de savoir s'imposer. J'imagine que vous êtes des patrons très cool, néanmoins, c'est vous les patrons, auprès de jeunes qui ont votre âge ou plus âgés.
Alors non, parce qu'elle me respecte, on se respecte, et puis le courant est tout de suite bien passé, ouais. Donc il n'y a pas de conflit. On se comprend, même des fois on se regarde juste, on comprend ce qu'on veut se dire, donc non, il n'y a pas de problème.
Donc ça se passe bien.
Oui.
Et le vouvoiement?
Alors le vouvoiement, c'est... Alors le jeune apprenti Tommy, ça s'est tout de suite passé, parce qu'il est quand même bien plus jeune que moi. C'est vrai qu'avec Emilien, ça lui a fait bizarre de devoir vouvoyer quelqu'un qui a le même âge que soi. Mais maintenant, c'est devenu une habitude. Et quand des fois, on fait des sorties, quand on a le temps ensemble après, il n'arrive pas à me tutoyer. Pourtant, je lui dis, on ne travaille plus là, tu peux me tutoyer. On est, ouais. On est amis, mais non.
Il est du mal. Vous êtes amis, mais au boulot, vous êtes au boulot, quoi.
C'est ça, voilà. Il faut savoir faire la part des choses.
Qu'est-ce qui s'est porté garant, finalement?
Alors, c'est mon père qui s'est porté garant sur les prêts bancaires. On n'a pas eu le choix, c'était comme ça. Donc, heureusement qu'il était là aussi. Il avait un petit peu d'économie pour nous. Mais c'est vrai que les banques nous refusent vite les prêts. Et puis mon père était dans la banque depuis 10 ans, il me semble.
Ah, ça aide.
Et voilà, c'est ça qui a aussi fait. On serait allé dans une autre banque, à mon avis.
Pas forcément. Ouais. Il s'appelle comment, votre père?
Vincent.
Regardez derrière moi.
Salut les loulous. Voilà, je voulais vous laisser un petit message pour vous dire qu'on était très fiers de vous. Parce qu'il faut le faire. Quand on a votre âge et qu'on est jeune, un jeune couple, de faire un métier dont les rythmes de vie et de travail sont intenses, physiques, et puis en décalage avec ceux de vos amis et de votre famille. Donc bravo pour ce courage-là. J'espère que bientôt vous pourrez récolter pleinement les fruits de votre investissement. Vous formez une belle équipe, vous et vos salariés. Alors on est fiers de vous et on vous aime. Bye!
Je me disais en vous regardant que vous êtes aussi en effet un couple et qu'il faut être sacrément armé pour quand on a 20 ans pour affronter ça, mais aussi quand on est un couple, quoi, parce que même si ça faisait 4 ans, c'est un jeune couple, vous êtes un jeune couple.
C'est sûr, surtout quand ça fait que 4 ans. Mais on s'entend tellement bien que ça passe tout de suite. Voilà, il y a forcément des engueulades, il y a forcément des moments où... Ou magasin, ça va pas, puis elle vient nous le rapporter, et nous, on est sous pression parce qu'on a plein de boulot à envoyer, donc ouais. Forcément, les tensions se font. Mais
vous êtes associé?
Alors.
Parce qu'imagine, ça va pas.
Je suis en tant qu'employé, justement.
Alors, d'accord. Voilà, mais pourquoi elle est en tant qu'employé? Il y a aussi la sécurité de si la boulangerie vient fermer, elle a le droit au chômage, elle a le droit aux aides, et elle est protégée, d'accord. Entre guillemets.
D'accord. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être un jeune entrepreneur comme ceux qu'on reçoit aujourd'hui?
Je crois que la première qualité, c'est d'avoir l'envie, le courage et de ne pas supporter être commandé. Je crois que ça, c'est la première chose.
Oui, c'est ça, en fait. C'est pas forcément être entrepreneur, mais c'est le refus d'avoir un patron.
Non, mais il y a le fait de vouloir entreprendre pour soi, c'est que rapidement, vous avez compris en qualité d'apprenti, qu'il y avait un environnement, vous l'avez rapidement analysé, vous dites, OK, mais moi, voilà ce que j'aimerais faire, ce que je pourrais faire. Et vous l'avez très bien expliqué dans le reportage, vous avez dit, j'avais pas envie d'être limitée dans mon idée, dans ma créativité, dans les actions à mener. Je crois que c'est surtout cela qui est à prendre en compte. C'est pas vouloir commander, ouais, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment être libre de pouvoir entreprendre ses idées, de les mettre en œuvre.
C'est un bon âge, 20 ans?
Ah oui. Ben, carrément. Alors, j'ai envie de dire, plutôt quand on est entrepreneur, plutôt on peut commencer, plutôt on peut, alors ça va peut-être vous étonner, mais entreprendre, c'est accepter de se tromper, d'avoir des galères, d'avoir des échecs, de faire des erreurs, d'apprendre de cela. Et quand on commence tôt, eh bien, rapidement, on va avoir des expériences qui nous permettent de pouvoir faire prospérer son activité, quelle qu'elle soit. Après, la recommandation que je donnerais, c'est de ne pas rester seul. Même si vous avez des horaires compliqués ou autres, aujourd'hui, vous vous sentez en décalage parce que vos amis, donc votre contexte, ils sont encore soit étudiants, donc vous êtes complètement en décalage. D'ici 5-6 ans, ce décalage, vous ne le sentirez plus et c'est vous qui vous sentirez libre par rapport à eux. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous auriez besoin de vous entourer de personnes qui, comme vous, sont des jeunes entrepreneurs. Je pense notamment à l'association du Club des jeunes dirigeants. Je vous conseillerais de vous rapprocher d'eux. Vous allez rencontrer plein de personnes qui sont comme vous, et du coup, vous n'allez plus vous sentir en décalage. Et ça, c'est
bonne
vrai...
idée, c'est un bon conseil.
Voilà.
Bon conseil. Canel, vous avez quel âge, si je peux me permettre?
Oui, à votre âge, on peut se permettre.
Ouais. Je viens tout juste d'avoir 23 ans.
Quel genre d'entreprise vous avez monté, vous ?
Alors, j'ai cofondé une néobanque pour les jeunes. Il n'y avait aucun acteur bancaire qui s'adressait pleinement à la génération Z, donc aux jeunes qui ont entre 13 et 26 ans.
Ça veut dire quoi, s'adresser pleinement ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des banques traditionnelles qui s'adressent majoritairement aux parents et aux grands-parents. Il y a les néobanques qui s'adressent aux jeunes cadres. Il y a des services qui s'adressent qui sont dédiés en fait aux ados aux 13-18 ans, mais qui infantilisent énormément les jeunes et qui s'adressent aux parents.
Donc vous êtes partie de ce constat, et à un moment, c'est quand même chaud de se dire « je vais lancer ma banque en ». Fait.
Bah, on est parti de ce constat et on s'est dit qu'on allait créer un peu sur une page, sur un site, ce que nous, on imaginait de la banque parfaite pour notre génération. Donc une carte gratuite, une application simple et fluide, des avantages sur plein de marques et en fait avec un vocabulaire totalement adapté. Donc du tutoiement, des mots que les jeunes comprennent aussi très rapidement, ouais, dans lesquels ils peuvent se refléter. Et on s'est retrouvés en l'espace de 10 jours avec plus de 100 000 inscriptions.
Le tutoiement, c'est-à-dire que c'est une application et elle va me tutoyer.
Exactement. C'est-à-dire que la grande différenciation par rapport aux services qui existent aujourd'hui, il se fait dans l'engagement et le lien qu'on a créé avec ces jeunes. En fait, dès le début, on a été dans une démarche de co-création, donc on a été très, très
participatif, en fait, vous poser des questions.
Ouais. Ouais. Dès le début, en fait, on a créé une communauté avec laquelle on a échangé. Donc, on les a inclus dans le process de création, c'est-à-dire du moment où on leur faisait choisir le design de la carte, le design de l'application, les nouvelles fonctionnalités.
Mais derrière, au-delà de l'application, il y a quand même une structure, il y a une vraie banque derrière ?
Bien sûr. Alors, on est indépendant aujourd'hui. Donc, on est agent prestataire de services de paiement. C'est-à-dire qu'on opère de façon indépendante, mais on est adossé à un agent bancaire.
D'accord, qui lui fait toutes les, enfin, avance les, enfin, gère toute la trésorerie qu'on vous confie. Enfin, pardon, je ne sais pas si c'est les mots.
Oui, exactement.
Que vous utilisez, mais c'est ça qui gère. D'accord. Combien vous avez d'employés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est autour de 35.
D'accord. Vous voyez monter des structures toute votre vie, ou est-ce que c'est votre bébé que vous voulez accompagner le plus loin possible ? Est-ce que quand on est entrepreneur de plein de choses et on se dit maintenant que ce qui vous excite, c'est ce que vous avez réussi à monter, ou c'est tout le chemin pour y arriver ?
Les deux. Je pense qu'il y a une partie où aller sur un secteur qui est très, très traditionnel et casser cette partie traditionnelle pour la rendre très accessible et très challengeante. Et en fait, plus on avance, plus aujourd'hui les équipes grandissent et plus de pays on ouvre, plus vite on grandit, moi aussi très personnellement. Donc je pense qu'on apprend énormément aussi, comme vous le disiez, des erreurs qu'on fait au fur et à mesure. Donc je pense que quand on est entrepreneur, on l'est pour tout le temps. Et on a commencé aujourd'hui avec ça. Et je pense que si à un moment ça vient à évoluer et finir, on va dire, je pense que oui, je remonterai quelque chose en ayant en tête toutes les erreurs que j'ai pu faire avant et tout ce que j'ai appris avant pour ne pas le refaire.
Elle a 23 ans, elle est déjà très structurée. Votre discours est très structuré. On sent qu'il y a une vraie maturité, c'est clair. Vous êtes très bien calée dans le domaine du marketing digital. Vous avez engagé l'engagement aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. On essaie de prendre en compte notamment comment la communauté peut être notre premier vecteur pour avancer dans sa marque. Donc après, j'aurais presque envie d'un peu plus de savoir la femme qu'il y a derrière, comment ça s'organise. J'aurais envie de poser des questions. Est-ce que les prises de décision en tant que femme, est-ce que vous êtes que des femmes associées ? Est-ce que c'est hommes et femmes ? Vous voyez, parce qu'il y a aussi cette
question-là.
Alors aujourd'hui, donc
c'est pas facile d'être entrepreneur souvent en tant que femme. Encore aujourd'hui, on donne pas autant de crédit, notamment pour les levées de fonds aux femmes. Et souvent, quand on est associé homme-femme, c'est toujours un peu plus facile.
Ouais. Alors oui, il y a eu, je crois, l'année dernière, 12% des levées de fonds qui étaient seulement menées par des femmes. Donc c'est encore très peu.
Donc ça donne.
Ouais, ça donne envie d'aller chercher plus de fonds aussi. Mais aujourd'hui, on est 4 associés, donc j'ai 3 associés qui sont du coup des hommes et je suis la seule associée femme. Mais aujourd'hui, sur l'équipe au global, on a une majorité de femmes dans l'équipe plus que d'hommes.
Vous avez quelqu'un dans votre vie ?
Non.
Pour l'instant, vous n'avez pas le temps.
Non.
Voilà. Mais vous le trouverez un jour, j'espère, pour vous ou pas, d'ailleurs, peu importe. Il n'y a pas cette place-là aujourd'hui.
Il y a cet élément-là. Quand même, je dis attention, et surtout quand on commence très jeune, c'est que quand on entreprend, l'adrénaline peut être super. Mais on est tellement dans l'adrénaline par rapport à ce qu'on entreprend qu'on a l'impression qu'à côté, ça a beaucoup moins de goût, moins de saveur. Et donc, du coup, parfois, on déséquilibre un peu notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Donc, attention, vigilance à ça.
Rémi, Rémi, on va écouter votre histoire aussi. On se connaît, Rémi.
Oui.
On s'est rencontrés virtuellement. C'était pendant le confinement.
Oui, il y a 2 ans.
Oui, racontez-moi. Vous avez bien changé, dis donc, Rémi. Hein.
Eh oui, j'ai grandi.
À 2 ans, à votre âge, ça se voit beaucoup plus qu'à notre âge. Dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce que vous nous aviez raconté à l'époque?
Du coup, à l'époque, il y a 2 ans, au début du confinement, j'ai imprimé en 3D des visières pour les soignants. Ouais. Parce que au début du Covid, il n'y avait plus de masques. Et du coup, il fallait trouver une solution à ça.
Ouais.
Cette solution était les visières. Et le seul relais, entre guillemets, industriel en France, c'était les makers. Du coup, comme moi, c'est des gens qui fabriquent avec une imprimante 3D des objets.
D'accord.
Qu'on peut voir ici. Et du coup, ces objets-là, tous les makers de France se sont réunis pour les offrir aux soignants, ouais, aux commerçants et à tous ceux qui sont en contact direct du Covid. Et du coup, voilà.
Alors, on va découvrir à travers quelques photos ton univers, ouais, tout de suite, Rémi.
Dès son plus jeune âge, Rémi est curieux et bricoleur. Très manuel, il aime démonter des objets pour comprendre leur assemblage et s'amuser à les remonter. Le jeune homme déteste l'école et n'arrive pas à tenir en place. Il concentre alors toute son attention sur son passe-temps préféré, l'impression 3D, qu'il découvre par hasard lors d'un stage à l'étranger. La devise du jeune homme est qu'à chaque problème, il existe une solution. Et pendant le confinement, il va justement le prouver en fabriquant un outil extrêmement utile durant la pandémie grâce à sa fameuse imprimante.
L'école, c'était pas ton truc ?
Non, même aujourd'hui.
Je te tutoie pas. Oh, si, je peux tutoyer.
Avec plaisir.
Même aujourd'hui, c'est pas ton truc ?
Non, même aujourd'hui.
Qu'est-ce que t'aimes pas ? Qu'est-ce que t'apprécies pas à l'école ? T'as des bonnes notes ?
Pas trop.
Non, d'accord, ok.
Mais rester assis, j'aime pas, en fait. J'ai besoin de faire des choses avec mes mains et bouger. Je peux pas rester assis, écouter un professeur, écrire et...
Il paraît que t'as un mantra.
C'est-à-dire un mantra ?
Il paraît que t'as une phrase type que tu te répètes en permanence, une devise.
Chaque problème, sa solution.
Exactement, j'adore, ça fait un peu matheux. Yannick, bonjour, vous êtes le père de Rémi. Est-ce que vous vous souvenez de cette période des visières ? Est-ce que vous avez senti que naissait chez votre fils une vocation un peu autour de cette créativité ?
Je m'en souviens parce qu'on ne dormait plus. Les imprimantes tournaient 24 heures sur 24.
Bruit,
donc ça, je m'en souviens
Yuri,
bien.
Yuri, pardon, je vous ai appelé Yannick.
C'est pas grave.
Le bruit, vous... C'est vrai que c'est hyper bruyant, une imprimante. Et souvent, il faut la faire tourner des heures et des heures.
Hein. Pendant le confinement, tout tournait 24 heures sur 24. sa chambre était au-dessus de la nôtre. Et on entendait les imprimantes toute la nuit. Donc vous pouvez imaginer. Bon, au bout d'un moment, on s'y fait. Mais ce qui était très excitant, c'est cette pénurie d'outils de protection qu'il y avait et que tous ces makers se mettent au service de la communauté, des hôpitaux.
Ah oui, il a eu un vrai rôle important. C'est vrai que vous deviez éprouver une fierté. Hein.
Ouais, c'était très sympa de voir la motivation. Et puis, il était à fond dessus. Il dormait 2 heures par nuit pour pouvoir faire les impressions, ainsi de suite, parce qu'il avait des objectifs. Un hôpital venait, les pompiers venaient. Enfin, c'était très sympa.
Et tu avais reçu une distinction à l'époque. Hein. C'est ça qu'on avait voulu mettre en lumière quand on s'était rencontrés via les réseaux sociaux.
J'ai reçu une distinction de la ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa,
ouais,
qui a créé son programme qui s'appelle Les Prodiges de la République, qui consiste à en fait, promouvoir les jeunes entre 16 et 35 ans qui ont fait des actions pendant le Covid. Du coup, pour moi, c'était les visières. Il y en avait d'autres, c'était par exemple des gens qui allaient aider les personnes âgées chez elles, etc.
Ouais.
Et du coup, le maire de ma ville, Jean-Pierre Dermite, m'a fait un dossier sur moi, en fait, et l'a donné à ce programme Prodige de la République. Et j'ai été sélectionné par Marlène Schiappa pour,
ça, c'est classe, pour
recevoir ce grade, entre guillemets.
Mais une fois que c'est le confinement, les choses se sont un petit peu apaisées, c'est là où il a fallu te renouveler.
Exactement.
Quelle a été ta première idée, Rémi ?
Du coup, grâce à Facebook, que maintenant je suis dessus et que j'aime bien, j'ai vu des gens poster des photos qu'ils allaient faire une remise de prothèses en 3D. Je dis, c'est l'occasion de faire quelque chose avec mon imprimante 3D encore pour aider quelqu'un.
Ouais, y a quand même toujours cette notion d'être utile pour les autres. Hein. Tu crées pas pour des objets, on va dire, j'allais dire gratuits ou inutiles. Toi, tu veux aider ton prochain à travers tes projets.
Bah, chaque problème, sa solution.
Ah oui, pardon, excuse-moi. Excuse-moi.
Et du coup, on peut voir ici la petite prothèse. Du coup,
ah, ça, t'es créé une prothèse donc, pour une jeune fille ?
Oui, exactement. Du coup, ça, c'est la prothèse de test pour valider que je suis bien apte à créer une prothèse.
Ouais.
Du coup, cette prothèse, je vais vous montrer comment elle fonctionne tout d'abord. En fait, la personne qui reçoit cette prothèse doit avoir sa pomme pour insérer la pomme ici, dans le compartiment ici. Et le poignet vient s'accrocher là.
D'accord.
Et avec le mouvement du poignet, ça vient fermer les doigts.
Ah.
Permet de venir accrocher tous les objets du quotidien.
C'est simple, en fait.
C'est simple, ouais. C'est juste une action du poignet qui permet de fermer les cinq doigts et,
super.
Et tenir ce que la personne veut. Et du coup, cette petite...
T'as inventé ça, toi ?
Non, c'est une association qui s'appelle Enable, qui s'occupe de répertorier les makers de prothèses.
D'accord, avec des prothèses. Et c'est toi qui as voulu te lancer dans la création de celle-là.
Exactement. Du coup, on nous donne les fichiers. Nous, on imprime. Après, on fait le montage et on adapte en fonction de la personne.
Bah, c'est ça qui doit être difficile parce que c'était une jeune fille, une petite fille ?
Oui, une petite fille de 7 ans.
Une petite fille. Déjà, c'est très émouvant. Hein. Ça a dû être émouvant quand elle l'a mis pour la première fois. Comment tu fais pour l'adapter après à elle ? Comment ça se passe ?
Du coup, on doit aller prendre des mesures, en fait, sur la petite fille pour qu'on puisse adapter la partie du poignet et la partie de la pomme. Et dès que c'est fait, ici, on peut voir les ajustements en direct chez elle pour que sa main lui aille au mieux. Et comme c'est une petite fille qui grandit, tous les 6 mois, 1 an, il faut lui changer sa prothèse.
Du coup, tu vas la suivre toute sa vie ?
Du coup, pour l'instant, je l'ai suivie, je lui ai fait 2 prothèses.
Ouais.
Et du coup, bientôt la troisième.
Raconte-moi quand tu l'as rencontrée. Comment ça s'est passé ? Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Nawel, cette petite
mignonne.
Fille.
Elle est mignonne comme ça. Oh là là, ses petits yeux pleins de reconnaissance.
On peut voir sa prothèse que je l'avais installée.
Ouais.
Et quand on est arrivé chez elle, elle nous attendait dehors avec son amie, ils étaient en train de jouer dehors. Du coup, elle nous a demandé où est ma main ?
Ah, c'est drôle.
Et du coup, on est rentré. Du coup, on a un peu parlé avec les parents, tout ça, et on a pu faire les tests pour elle, pour que je sache que plus tard, elle n'ait plus besoin de moi. C'est là où on voit qu'elle tient un téléphone, par exemple, ou la bouteille.
Tu dois avoir une fierté incroyable quand tu vois ça. Il y a même une immense émotion. C'est que tu changes la vie de quelqu'un, quand même.
C'est ça, je me dis. C'est moi, avec 24 heures d'impression, 3 heures de montage, je peux révolutionner, entre guillemets, la vie d'une petite fille, du coup.
Ah ouais, c'est fou, ça. C'est elle qui avait choisi la couleur, elle voulait bleu ?
Ouais. Je lui ai demandé chaque partie, qu'est-ce qu'elle voulait comme couleur, et je l'ai fait sur mesure.
Ah, c'est chouette de pouvoir... Ouais, j'imagine qu'elle a une reconnaissance aussi infinie de pouvoir, grâce à toi, en effet, ne serait-ce que tenir un téléphone. Donc, ça, c'est top. Et alors, à quel moment Thibaut est rentré dans ta vie ?
Thibaut est rentré dans ma vie en première, du coup, l'année dernière, pour moi.
Ouais.
On a une passion en commun qui est l'aéronautique. Moi, j'aimerais être pilote de ligne, du coup, commercial, et Thibaut, pilote de chasse.
Tu veux être pilote de quoi, toi ?
Pilote d'avion normal, commercial.
D'accord, ouais, classique, quoi.
Voilà.
Parce que moi, je pensais que ta passion, c'était ce que tu faisais, en fait. Non, t'es un peu hyperactif, non ?
J'ai une double passion.
Double passion, donc l'aéronautique.
Oui.
Et comment on dit ça ?
L'impression 3D,
la
création 3D.
Donc l'impression 3D, tu t'es éclaté, maintenant c'était l'aéronautique. Donc pilote de ligne et toi pilote de chasse, Thibaut. Je peux tutoyer, Thibaut ?
Oui.
Super. Donc vous êtes rencontrés en première et vous êtes dit, enfin, autour de cette passion.
Exactement.
Ce qui s'est passé, en gros, du coup, c'est qu'on s'est rencontrés en première.
Ouais.
Le temps, il est passé. L'été de la première à la terminale, on ne s'est plus trop parlé. Et en fait, à la rentrée, on s'est revus et on a direct continué le contact.
Ouais. C'était juste de l'amitié comme ça. Il n'y avait pas de projet commun.
Ouais, il n'y avait pas de projet commun. Et un jour, on est avec un ami devant le lycée, du coup, qui est en train de fumer sa cigarette et il jette son mégot par terre. Donc, il l'écrase. On lui dit, voilà, il y a une poubelle à 10 mètres, tu peux la ramasser, aller mettre dedans. Du coup, on s'est dit, faut trouver un moyen. Parce que lui, il nous a dit, ouais, c'est une habitude que tous les fumeurs, ils ont. On s'est dit qu'il faut trouver un moyen pour éviter ça, en fait.
Bah, il y a les petits cendriers,
les petits
trucs ronds, là.
On s'est dit qu'il faut trouver un truc que les gens n'oublient pas.
C'est vrai qu'en fait, ça ne change pas. Je suis d'accord, on l'a toujours au fond du sac, on n'y pense pas. Moi, j'ai des copains qui disent « Ah oui, j'en ai un !» Mais il n'est pas là, quoi.
Du coup, ce qu'on a inventé avec Rémi, c'est ça. Donc cet objet, en fin de compte, il vient se glisser sous le paquet de cigarettes.
Ouais.
Pour pouvoir mettre, en gros, ses mégots à l'intérieur. Donc il vient se glisser en coulisses, on met 6 mégots à l'intérieur.
Ah, il se glisse en dessous du paquet ? Oui, mais du coup, c'est bouillant.
La cigarette, elle s'éteint au bout de 15 secondes parce que c'est hermétique. Du coup, il n'y a pas d'échappement d'odeur et la cigarette, elle s'éteint dès qu'on la met dedans.
Donc, on n'a qu'à juste vider le cendrier en fin de journée ou quand il est plein. Donc, mais je n'ai pas besoin de l'écraser avant de le mettre dans le truc ?
On peut,
mais ce n'est pas grave si on ne le fait pas.
Ce n'est pas grave.
Ça ne brûle pas le fond du paquet ?
Non.
Mais alors, c'est sur ce trottoir, là, tous les deux, que vous avez pensé à ça ?
Ouais. En fait,
ou est-ce que vous êtes vus ?
En rentrant à la maison, on s'est appelé en appel. Et on s'est dit, on va trouver un moyen. Du coup, on a commencé les premiers prototypes. Ça ne ressemblait pas du tout à ça, du coup, mais au fil du temps, on a amélioré la chose.
C'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment on crée. On a une idée, comment on crée ? Au début, on dessine, on se dit qu'est-ce qui est pratique. Ouais. Comment on fait ?
Chaque solution...
Non, mais c'est-à-dire que comment on fait ? On fait une réunion tous les deux, on se dit, OK, il faut qu'on trouve un truc, quoi.
Ouais.
Parce que ça a l'air simple quand on vous écoute. Il faut qu'on trouve une astuce.
C'est ça. Du coup, c'est venu comme une lettre à la poste, on va dire.
Genre en 2 heures.
Ouais, franchement, on est resté en appel une heure ou deux et on s'est dit, voilà, on a trouvé Donc le soir même, Rémi, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait sur son ordinateur, il a fait le truc en 3D du coup. Ouais. Il a modélisé sur son ordinateur, il est sorti. Bon, comme je disais, c'était pas le même prototype que maintenant.
Tout de suite, toi, dire le soir c'était fait.
Le soir c'était fait.
C'est dingue. Mm. Vous avez déposé un brevet, j'espère.
On a déposé un brevet.
Vous allez pouvoir faire le concours Lépine.
Ouais, c'est ce qu'on comptait faire. Ouais. Mais bah, le brevet, c'est ce qui nous a pris le plus de temps, parce qu'on n'a pas pris d'avocat pour ça. On l'a fait que tous les deux.
Il faut pas le faire.
On a réussi à le faire. Bon, mais ça nous a pris peut-être 60 heures de temps à peu près.
Ah ouais.
Ouais. Mais c'était pas le plus long. Il y avait la création de la société aussi, du coup.
Et donc, vous, alors, justement, c'est la question. Donc là, vous avez été associés sur cette idée que vous avez déposée ensemble et ça vous a donné envie de créer une entreprise ensemble ?
C'est ça.
Donc, c'est pour, juste pour ce cendrier, en fait, cette entreprise.
C'est ça. Enfin, on va essayer d'améliorer les choses au fil du temps. On n'a pas encore d'autres idées, mais je pense que ça va venir.
C'est-à-dire toujours dans cet univers
écolo.
Là ?
Mmh.
Écolo, c'est ça.
Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il est biodégradable parce qu'il est fait à base de soja, la résine. Rémi va vous expliquer après. Il est passé sur des imprimantes résine. Du coup, en gros, c'est liquide et ça durcit. Et c'est fait à base de soja, du coup.
Et tout ça, t'as toujours 17 ans, en fait. Pendant tout ce qu'on se raconte, là, t'as toujours 17 ans, en fait.
Oui.
Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà connu Vivi, en fait, avec vous, là. D'accord. Incroyable. Donc là, maintenant, c'est toi qui as eu... Enfin, l'idée des imprimantes en résine, c'est quelque chose... c'est nouveau ?
Eh bien, en fait, c'est cet été. Enfin, l'été dernier, du coup. Ouais. J'ai pu travailler dans une entreprise qui m'a demandé d'être technicien sur les imprimantes 3D résine. Et du coup, cette entreprise qui m'a embauché, je faisais plein de trucs avec programmation d'ordinateur, soudure, c'était un peu polyvalent.
Ouais.
Et du coup, la découverte de ces imprimantes résine m'ont permis de créer ce produit avec cette technologie-là qui est quand même assez industrielle pour nous actuellement.
Mais comment tu vous renseignez de savoir quelle matière vous allez utiliser, qu'est-ce qui est possible à faire ? Comment on sait si ça n'existe pas déjà à l'étranger ?
En fait, pour savoir si ça n'existe pas déjà, il faut faire les recherches sur Internet, en fait,
ouais.
Sur le site de l'OMPI, c'est l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Et en fait, on recherche tout simplement s'il n'y a pas un brevet qui a déjà été déposé.
Et alors, j'imagine que quand vous découvrez qu'il n'y a pas de brevet, vous devez être surexcité.
On est content parce qu'on se dit qu'on est les premiers mondiaux à avoir fait ça, quoi. On est un peu fiers de
Il doit avoir une grande fierté, quoi.
Ouais. On est assez contents de nous.
Vous êtes hyper impressionnant, je trouve. Vous êtes hyper cool, à la cool. On a fait ça 2 heures dans notre piole. Et puis finalement, on invente un truc. Et puis après, on va passer à autre chose. On monte une structure. Vous êtes très impressionnants, hein, tous les deux. Est-ce que, Thibaut, toi, tu avais le goût de l'invention aussi ? Parce que toi, t'étais pas un...
Au début, non. Mais du coup, j'ai appris avec Rémi. Et au fil du temps, je me suis plus intéressé.
Ouais. Donc là, maintenant, c'est ce que tu as envie de faire aussi, de développer ?
Développer le produit et plein d'autres choses avec lui, j'espère.
Ouais, y a une vraie association.
Ouais.
Vous entendez bien aussi en pote, quoi.
Ouais.
Mais alors, attendez, comment on fait pour avoir un chef d'entreprise et devenir pilote de chasse ?
Alors, justement, là, c'est un peu compliqué en ce moment.
Ouais, ça, ouais.
C'est un peu compliqué.
Il y a quelques petites études à faire avant d'être pilote de chasse.
Normalement, je devais rentrer dans l'armée de l'air, en fin de compte, une école. Et je devais rentrer là-bas en première.
Ouais.
Sauf qu'au final, je n'ai pas été retenu. Et faire un concours à 22 ans pour rentrer à Salon de Provence, l'armée de l'air, pour devenir pilote de chasse. Mais au fil du temps, je me suis un peu ramolli et je me suis dit...
c'est drôle.
Et vu qu'il y a ça en parallèle...
C'est lucide.
Ouais. Vu qu'il y a ça en parallèle, je me suis dit, on verra bien.
Ils sont pas un peu jaloux, vos copains, parfois, quand ils voient votre... Non ?
On leur en parle pas trop.
Vos idées. Vous en parlez pas trop ?
Non.
Ils le savent, mais on évite parce qu'après, ils vont me dire...
Vous la pétez.
Ouais, un peu de jalousie aussi.
Donc maintenant, c'est déposé. L'étape d'après, c'est quoi, en fait, avant que ça soit commercialisé ? Il y a combien d'étapes ?
Justement, on a déjà commercialisé. Mais les étapes, c'est du coup, on devait créer le brevet, créer l'entreprise, créer le compte en banque. Donc tout ça, on l'a fait que tous les deux. On s'est débrouillés.
Vous avez levé des fonds où, vous ? Qui vous a aidé ?
Notre poche.
D'accord, bien. Sinon, je vous présente Canel. C'est les parents aussi qui ont aidé ?
Les parents ont beaucoup aidé, oui.
Ouais. Et donc maintenant, c'est commercialisé ?
C'est commercialisé,
ouais. Ou en ligne ?
En ligne et dans les points de vente, comme des tabacs, par exemple.
Carrément ?
Ouais.
Donc maintenant, ça roule, votre truc ?
Ouais.
Et vous avez toujours 17 ans ?
Moi, j'ai 18 ans, ouais.
Ah, excuse-moi. Vous gagnez de l'argent ?
Non.
Pas encore ?
Pas encore.
C'est votre ambition, j'imagine, aussi ?
Pas notre premier but,
ouais.
En soi. Après, on verra l'avenir.
Laurence, vous êtes la mère de Thibaut.
Oui, tout à fait.
Ils sont hyper sympas, déjà.
Oui.
Félicitations. Et qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous l'avez vu s'épanouir, votre fils, au fur et à mesure que ce projet s'est développé ?
Complètement.
Ouais.
Complètement. En l'espace de 3-4 mois, une maturité incroyable.
Vous l'avez pris au sérieux, au début ?
Oui, dès le départ.
Vous avez senti qu'il était
sérieux? Oui, j'ai eu confiance en eux tout de suite.
Oui.
Tout de suite. Et c'est vrai qu'actuellement, on vit des moments de bonheur, de fierté.
Il vous épate?
Il nous épate.
Est-ce que vous fumez?
Oui.
Est-ce que vous utilisez ce
produit? Oui, tout à fait.
Vous êtes un peu obligé. Il ne faut pas fumer.
Je ne le quitte plus.
Vous fumez aussi?
Moi, non.
Non, étonnamment, il ne fume pas ni l'un ni l'autre.
Ouais, c'est ça le plus fou.
Bah, déjà, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc déjà, félicitations, j'ai engueulé votre mère, mais vous, c'est beaucoup mieux. Mais c'est amusant aussi que vous ayez ce réflexe, finalement, qui a été purement écolo en voyant ce copain qui l'a mis par terre, son mégot. Ouais, quoi. C'est encore plus chouette, en fait.
Et moi, ce que je peux rebondir sur ça, c'est qu'aujourd'hui, on fait partie d'une génération qui est quand même très engagée.
Bien sûr.
Et en fait, que ce soit sur des causes écolo ou LGBT ou plein d'autres causes différentes, nous, ce qui a fait la vraie différence sur le marché auquel on s'adresse, c'est cet engagement de dire qu'on crée une néobanque pour notre génération et avec les jeunes de notre génération.
D'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Mais on vous voit engagé. J'étais en train de me poser la question si c'est quelque chose de cette génération-là ou est-ce qu'il y en a toujours eu? Des jeunes engagés, évidemment, il y en a toujours eu, mais c'est vrai que là, vous avez les moyens de vos ambitions.
Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Après, c'est la forme que ça prend. Je pense que sur les nouvelles générations, en fait, avant, il y avait ce besoin d'avoir un écosystème autour de soi qui nous poussait un peu, qui nous aidait pour entreprendre. Aujourd'hui, on a accès aux informations, à la technologie de façon complètement différente. Donc, les générations... Les milléniaux, en fait, n'ont pas besoin, entre guillemets, des anciens pour avancer. Ouais, c'est là où c'est différent. Après, ce qui est intéressant de voir en fonction de chacun, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes formes d'entrepreneuriat. Dans votre typologie, on est plus dans la passion du métier et donc d'entreprendre dans son métier. Là, on a des typologies d'inventeur altruiste, c'est-à-dire c'est une cause, avant tout c'est une cause qui me donne envie d'entreprendre, mais la partie business argent, c'est pas du tout votre moteur. Et là on a le parfait chef d'entreprise où c'est le business, on entreprend avec une orientation de chef d'entreprise. C'est encore différent et ça aussi à prendre en compte, parce que on peut entreprendre peu importe pourquoi, et on peut aussi entreprendre pour sans vouloir forcément gagner de l'argent ou être même entreprendre des projets sportifs ou culturels, tout est possible. Ouais. Et ça, c'est important aussi à prendre en compte.
Quel message vous êtes venu, vous venez transmettre à ceux qui nous regardent? Vous avez envie de leur dire quoi?
Moi, je pense que le message que je vais faire passer, c'est qu'on ait 15 ou 50 ans, tant qu'on a envie, tant qu'on a l'ambition et la motivation, je pense qu'on peut y arriver.
Ce qui me fait un coup, c'est que pour vous, le plus vieux, c'est 50.
Non, mais c'est la bonne chance.
On est 50 ans, vraiment. Parce que ça fiche un coup.
J'ai 50 ans cette année.
On a une petite surprise pour vous. Regardez derrière vous.
Bonjour Rémi, bonjour Thibault. Il y a quelques jours, vous étiez dans mon bureau pour me présenter votre projet. Aujourd'hui, vous êtes avec Faustine. À Paris, que de chemin parcouru.
Je vous soutiens à 200% dans cette belle aventure. Je suis admirative de toute l'énergie que vous déployez au quotidien et du courage que vous avez du haut de vos 17 et 18 ans.
Je voulais juste te dire que j'étais très très fier de toi. Je vous félicite tous les deux pour le projet que vous avez créé.
Préserver la planète comme tu le fais me rend très fier de toi. Bravo à tous les deux, une grande réussite. Je t'aime.
Vous êtes ému, Thibault.
Non.
Vous aussi, Rémi. Pourquoi vous êtes ému comme ça, Thibault?
Ça me fait plaisir.
Ça me fait plaisir qu'on croit en nous.
J'aime bien, parce qu'en effet, vous avez 18 ans, mais j'aime bien qu'on voit que vous êtes encore un peu des petits mecs. Pourquoi vous êtes ému, vous, Rémi?
Comme tout le monde ici, vers chez nous, vers Nice, tout le monde nous aide et veut nous amener plus loin. Parce qu'on est, on est les petits de la famille, on va dire. Et du coup, beaucoup de gens nous aident, en l'occurrence les parents de Thibault. Eux sont restaurateurs et nous aident en fait avec tous leurs contacts à aller plus loin. Et c'est là où on peut découvrir de nouveaux horizons et c'est toujours gentil de leur part.
Je trouve très émouvant, très attachant en tout cas tous les deux. Louis, alors on est un peu aussi dans l'accessoire du quotidien avec vous, hein?
On va dire que ouais, c'est une bonne protection du quotidien. On en a tous besoin, en tout cas.
Alors, racontez-moi, vous, votre histoire. Vous avez quel âge, vous, Louis?
Moi, j'ai 26 ans.
Oh, vieux!
Exactement.
Bientôt 50, vous allez voir.
Très vieux.
Je m'approche, je suis à la moitié en tout cas.
Quel point commun vous avez avec nos invités aujourd'hui?
Ah, je me reconnais énormément dans vous deux en tout cas, vous aussi. Mais vous deux, j'avais l'impression de me voir en fait, c'est moi, il y a 8 ans.
C'est vrai?
Il y a longtemps.
Il y a 8 ans, une vie. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Alors vous en étiez où dans votre...
Même il y a 12 ans, quand j'avais 15 ans en gros, j'ai gagné un téléphone à la radio. Donc déjà la chance démarre et je cherche à protéger ce téléphone. Je vais dans un magasin, ça vaut 50 euros la coque de téléphone. Beaucoup trop cher. En plus, c'était des coques de téléphone noires, enfin, destinées aux 40-50 ans, comme vous dites. Et c'est pas mon âge. Quoi.
On va se détendre, les gars. Quand je fais la blague, ça va. Quand c'est vous, ça devient désagréable.
C'était pas pour moi. Franchement, j'aimais pas la coque.
Okay.
Et je cherche sur Internet et je tombe sur un site où, en gros, ils proposent 100 coques de téléphone, 100 euros, 10 couleurs différentes. Donc là, un truc un peu fashion. Et je me dis, je vais l'acheter les 100 coques, je vais en garder 10 pour moi, 10 couleurs différentes, je vais changer tous les jours. Et les 90 autres, je vais les revendre, mais pas dans un objectif de faire du profit, juste de me débarrasser en fait, des 90 coques pour ne pas avoir payé 100 euros de coques de téléphone. Enfin, c'est aberrant.
C'est drôle. Donc, il n'y avait pas une logique d'investissement. Si, c'était un... Non, il n'y avait pas une logique d'investissement. C'était pratique, quoi.
Ah non, c'était juste pour être le gars fashion au collège.
Mais j'avais quand même revendu un peu plus cher.
Alors, ça dépend à qui. ça dépend si c'était loin ou pas, parce que j'étais en vélo. Donc... En fonction, j'en ai revendu quelques-unes à 1 euro, mais pas beaucoup quand même. J'ai plutôt vendu 2-3 euros, 4
euros. Pas mal.
Et ça devait tout simplement s'arrêter là, sauf que je me retrouve en fait avec un de mes profs qui me dit, je suis au collège à cette époque-là, qui me dit « je voudrais une coque bleue ». Et j'étais un peu soumis, je suis toujours un peu, je dis toujours oui à tout.
Ça veut dire quoi, soumis ?
Quand un prof vous dit avec l'autorité, en fait, quand il y a une autorité du prof qui te dit « est-ce que tu peux me filer une coque bleue ?»
Tu le fais.
Je dis « non, j'en ai pas, mais je vais me débrouiller pour en avoir, il n'y a pas de souci. » Ouais. Chaque problème, comme dirait l'autre. Ça, je rachète des coques de téléphone. Et puis ainsi de suite, ça s'enchaîne. Au début, c'était ma conso perso. Après, c'est mes potes, les potes, puis des gens que je ne connais pas. Et c'est un peu un maillage, comme une toile d'araignée. Et c'est comme ça, en fait, en faisant mon réseau sur le net, sur des sites super traditionnels que maintenant, sur votre génération, n'utilise même plus. Mais j'ai recommencé à vendre mes produits comme ça. Et ça a super vite enchaîné, ouais.
Juste, et alors, c'était gratifiant, amusant, ludique ?
Ah, c'était pour le fun que je faisais ça, c'était et de me dire...
Puis vous gagnez de l'argent aussi.
Ah bien sûr, parce que oui, moi j'avais en gros 20 euros d'argent de poche, et puis je commence à monter mon business, et je fais en 3 mois 1500 euros de bénéfices, donc en fait, je ne savais même pas trop quoi en faire. Enfin, c'est-à-dire qu'à 15 ans, c'est beaucoup.
C'est drôle. Vous venez de quel genre de famille, vous ?
En plus, oui, pour la famille, c'est pas forcément... gagner 500 euros quand on a 15 ans, c'est pas normal, dans le sens où mes parents, mon père conduisait les trains, ma mère a travaillé dans une médiathèque, gérait une médiathèque, et même s'ils ont toujours ce profil un peu entreprenant, ils n'ont jamais entrepris de business en soi.
Comment ils l'ont vu, ça? Comment ils l'ont vécu, ne serait-ce que ces premiers mois, là, où tout d'un coup, vous avez gagné 1500 euros du jour au lendemain?
Je pense qu'ils l'ont plutôt bien vécu parce qu'ils ont vu que ça se passait bien en termes d'autonomie. Ils me donnaient beaucoup d'autonomie et moi, je leur rendais toute cette confiance qu'ils me donnaient. Enfin, ça se passait plutôt bien. Ils ont eu un peu peur au bout d'un moment quand même de voir qu'il y avait beaucoup de mouvements sur mon compte bancaire. J'atteins assez rapidement 5, 6, 7 000 euros. Des sommes qui étaient quand même astronomiques, enfin, pour un gosse. Quoi.
Tu peux venir chez moi.
Oui.
En fait, à chaque fois... Ouais.
Si ça avait existé, justement, ça aurait été un petit peu plus simple.
Donc, à chaque fois, en fait, que vous achetiez des coques... vous achetiez des coques, en gros, et vous les revendiez.
Ah, c'était ultra simple, de l'achat-revente.
Vas-y. Et à chaque fois, vous réinvestissiez l'argent ?
Oui, j'en ai pris un petit peu pour mes sorties, pour aller au restaurant.
C'est top.
Payer mes premiers coûts.
C'est vrai que c'est basique, en fait. Sur le papier, on se dit c'est basique, quoi.
Ah, mais c'est un business tout simple. Comment ça s'est développé ? Peut-être parce que j'étais le premier aussi sur le marché. Je proposais des choses un petit peu différentes. Et puis surtout, moi, j'achetais la coque 1 euro, tout comme les grandes surfaces l'achetaient 1 euro. Mais je ne la revendais pas 5 ans, je la revendais 10, ce qui me semblait déjà énorme. Et même faire x10.
Ouais, c'est sur la marge, quoi.
C'est ça.
Donc, auto-entrepreneur ?
Ouais, j'ai démarré auto-entrepreneur à mes 16 ans, avec beaucoup de galères. Et c'est là où le business s'est un petit peu...
Pourquoi beaucoup de galères, pardon, Louis ?
Monter un business à 16 ans, ce n'est pas simple, surtout en 2011. Ce n'était pas possible,
ouais,
en fait. Et puis un soir à la télé, le président, Nicolas Sarkozy de l'époque, dit que les mineurs pourront créer leur boîte ou leur association. Bon, finalement, c'était sur le papier, sur le discours, c'était plutôt simple. Mais dans la réalité, ça a duré 3 mois et beaucoup de batailles. Et surtout que quand je me suis présenté à la Chambre du commerce avec ma mère, Les conseillers pensaient qu'en fait ma mère se traînait son gosse parce qu'elle pouvait pas le faire garder ou.
Ah ouais.
Donc c'était pas.
C'est drôle.
On me regardait pas dans les yeux en fait.
Donc vous avez été à quel âge vous avez eu votre entreprise finalement?
À 16 ans. J'ai démarré à 15 ans.
C'est hyper jeune.
Et à 16 ans, ouais. Et hyper jeune, mais hyper enrichissant de façon intellectuelle bien sûr.
Ouais.
Et puis quand.
Mais il y avait des coqs partout dans ta chambre.
C'était très complexe à gérer. Une maison de 60 mètres carrés avec énormément de coqs dans toute la maison, il y en avait jusque dans la salle de bain, en dessous de la machine à laver, etc. Enfin, c'était un peu une galère. Ouais. Mais bon, après, il y a une solution qui s'est vite faite, c'est que j'ai été médiatisé, j'ai fait un passage télé. Et dans ce passage télé, en gros, j'avais fait en un an et demi 18 000 euros de chiffres. Et après ce passage à la télévision, j'ai fait 24 000 euros en
incroyable.
Une ou deux journées. Incroyable.
Oh, incroyable.
Incroyable gros problème, parce que déjà, stocker 1000 coques, c'est compliqué, mais en stocker pour 24 000 euros, c'est ingérable. Et donc, j'ai acheté mes propres machines pour...
Et tu continuais tes études en parallèle?
Oui, bien sûr. J'ai continué mes études jusqu'au bout, jusqu'au bac plus 5.
Incroyable. C'était un souhait.
Et ouais, le lycée...
Donc, en parallèle, vous avez acheté des machines. Pourquoi? Pour les personnaliser? Parce que pour l'instant, on parle toujours de coque noire ou de coque de chaque couleur.
On parle de coque de couleur à la base. Et puis après, moi, je trouvais ça un peu ennuyant. Et je me suis
dit,
essayé de faire un truc fun. Et j'ai regardé des vidéos sur Internet. Et j'ai vu des vidéos de Chinois qui parlaient en chinois, qui fabriquaient des coques de téléphone. Et j'ai vu les machines qu'ils utilisaient. Et donc, en gros, j'ai regardé, essayé de comprendre. Je me suis dit, je vais essayer d'acheter ces machines-là. J'ai acheté ces machines et je les ai faites. Parce que le gros problème, c'est qu'il n'y avait plus de place du tout dans la maison. Ce n'était plus possible, en fait.
Et alors, du coup, vous avez pris un local?
Et du coup, j'ai essayé d'investir ça dans ma chambre, etc. Enfin, je veux dire, le temps de pouvoir mettre mes propres machines, c'était un petit peu galère. Et puis, à la fin de mon bac, en fait, j'ai pris l'opportunité de partir en fait de chez mes parents pour pouvoir avoir un petit peu plus
de temps. C'est fou ça. Et il paraît en plus, c'est vrai qu'on faut se remettre en 2011. Aujourd'hui, à chaque coin de rue, on voit des coques personnalisées, on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand sont apparues les premières coques personnalisées, c'était hyper sympa quoi. Ça changeait beaucoup.
Ah oui, non.
C'était quoi vos premières personnalisations?
Ah, j'ai tout eu. Je vous laisse votre imagination et ce qui va être dans votre esprit. Je pense que je l'ai fait parce qu'on en a fabriqué pratiquement 1 million depuis. 2011.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des salariés?
Aujourd'hui, on est nombreux. On est 12 dans la boîte.
Ouais.
Donc, à fabriquer les produits, à les concevoir, à les imprimer tous les jours.
C'est super.
C'est drôle. Combien de machines aujourd'hui?
Je découvre les photos que mes collègues vous ont envoyées.
Il y a combien de machines aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a 12 machines différentes et on s'est développé sur plein d'autres choses aussi.
Quoi?
Parce que la coque de téléphone, c'était fun, mais bon, j'ai envie de...
Maintenant, il fallait faire autre chose.
Il y a un moment, je ne vais pas faire pendant 12 ans le même métier. Et donc, j'ai commencé à fabriquer des tasses, enfin à les imprimer, pardon. Imprimer des tasses avec des logos ou des dessins, des photos. Puis après, on s'est mis à faire des t-shirts, des objets, de la broderie, de la sérigraphie, enfin bref, plein de choses.
C'est chouette.
Un petit tablier, enfin...
Et un mug.
Et un mug, exactement.
Vous vous êtes arrêté, vous développez dans le même domaine ou vous avez...
Dans le domaine de la personnalisation, c'est-à-dire que le produit en lui-même, la coque de téléphone, moi, j'aime bien, mais j'avais envie de faire autre chose. Et je me suis dit, je vais rester dans l'impression, la création, parce que c'est quelque chose qui, moi, qui m'attire, qui m'épate, de me dire, en fait, d'un produit blanc, je peux sortir un truc
monstrueux. Personnalisé, ouais.
On fait des maillots de football aujourd'hui, on fait des écharpes, on fait plein de choses, et tout ça, on les fait chez nous, et on ne les fait pas faire ailleurs. Et c'est ça aussi de se dire, en fait, on est capable d'une bobine de fil à sortir un truc propre.
Et est-ce que vous avez une passion ou deux passions?
Oula, moi, j'en ai... À votre âge, j'en avais peut-être qu'une ou deux, maintenant, j'en ai une dizaine. C'est un peu compliqué.
C'est vrai? Alors, vous êtes lancé dans d'autres projets?
Mais il y a 3 ans, j'ai fait un régime avec une amie. On a tout repris depuis, mais on a fait un petit régime. Et on était sur Paris, on cherchait à manger des salades et on a vu un resto, c'était écrit poké, donc comme deux gars de camp, on ne savait pas ce que c'était des pokés. Et on rentre dedans et on mange un plat avec. C'est super bon, un plat avec du riz, des légumes, du poisson, enfin, truc parfait, un petit peu de goût de sushi. Au final, peut-être un peu gras quand même avec l'avocat, etc. Donc, c'est pas forcément très régime.
Je suis d'accord. Moi, alors, c'est bien qu'on en parle. J'étais persuadée que les Pokéballs, c'était super light.
Ah, faut pas dire ça, hein. Attention. Hein.
Non, c'est très bon, mais c'est pas au total du light.
Ah non, non. Si on fait pas de sport à côté, c'est un carnage. Hein. Donc, non. Non. Et en fait, avec cette pote, on se dit, pourquoi on n'importerait pas le concept à Caen?
Elle me dit, mais il n'y avait pas du tout de Pokéball à Caen?
Ah non, il n'y en avait pas. Elle me dit, mais tu n'auras pas le temps. Et je dis, là, j'arrête les études. Donc,
je ne fais rien la nuit.
J'ai juste 24 000 coques à la maison. Il me reste un petit coin, quoi.
J'étais étudiant, donc le matin en cours, l'après-midi, je faisais ma boîte. Donc le matin en cours, je ne vais pas le consacrer à faire des coques de téléphone. Et mon business, il faut que je consacre à un autre truc. Il faut que j'essaye de segmenter la chose. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on monte le resto. Donc, on a commencé le petit resto avec rien du tout. Là, on a mis chacun 2000 euros dans le resto.
Ouais.
Pareil, on a acheté des machines aux enchères. Et une fois qu'on a mis en route le frigo qui chauffe, mais qui ne refroidit pas. Donc, une même galère. Vous savez, parler de boulangerie, ça m'a fait vraiment sourire. Mais de se dire, voilà, on monte ça à deux. On a bossé à deux dans le resto. Pas embauché, bien sûr, parce que on n'avait pas assez d'argent. Puis maintenant, ça tourne, ça cartonne.
Il y a combien de personnes qui bossent dans ce resto aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est 4.
Ouais.
Et dans 2-3 mois, on sera, 10, 12 ou 15, on ne sait pas. Là, aujourd'hui, on a 18 couverts et on déménage.
Ah ouais ?
Pour passer à 200 couverts à Caen.
Incroyable !
Mais ouais,
et après, ça va devenir une chaîne ?
Non, ce n'est pas le but. Mais, parce que
le but, mais après, vous allez faire quoi ? Oui. Ça va être quoi le truc
après,
d'après ?
Après, je vais m'ennuyer.
Donc, c'est quoi l'étape d'après ?
Faire une chaîne, ça, c'est pas la chose qui m'exciterait parce que c'est uniquement dans le but, enfin, pas uniquement dans le but du profit, mais quand même un peu.
Ouais.
Et c'est ennuyant, vous allez toujours ouvrir un resto. Enfin, non. Par contre, le resto, oui, je sais pas, peut-être que je sortirai et je laisserai peut-être les parts à mon associé, qui est une de mes potes. Ou sinon, peut-être qu'on revendra, mais pour remonter autre chose.
Vous gagnez bien votre vie aujourd'hui ?
J'ai énormément gagné ma vie quand j'étais étudiant. Je le cache pas, j'étais vraiment bien loti. Maintenant, je gagne bien moins ma vie parce que, en fait, maintenant, j'ai décidé d'arrêter de travailler à 18h30, 19h. J'ai décidé de ne pas travailler le samedi ni le dimanche. Et je me suis dit, je préfère diviser par deux. C'est pas,
et vivre.
Ouais, diviser par deux, mais au moins vivre avec ce que je gagne plutôt que de gagner.
Profiter de la vie. Hein.
Voilà. Après, j'ai capitalisé pour pouvoir acheter une baraque. Puis après, une fois que c'est fait, parce que y avait un autre problème auquel j'ai été confronté, peut-être plus avec toi. Mais c'est faire un crédit bancaire quand on a sa boîte et quand on a 20 ans pour acheter une maison, c'est impossible. Donc on te dit, non, débrouille-toi.
Ouais, je comprends. Ouais. Ce que je trouve assez chouette, c'est le décalage entre le professionnalisme dont vous faites preuve et la fraîcheur et la simplicité avec laquelle vous me le racontez. J'ai eu envie d'un resto, on était deux, on s'est lancé dans un Pokéball, j'ai fait une prothèse. Et il y a quelque chose que je trouve super chouette de contraste, c'est vrai, entre plus on vieillit, on se rapproche des 50 ans, plus tout paraît lourd, alors qu'en fait, quand on vous écoute, c'est vrai que l'énergie de cette jeunesse permet toutes les audaces. Et ça, c'est pour ça que cette émission est porteuse d'espoir. C'est que je suis persuadée que ça va faire naître des vocations en disant « Mais oui, après tout, je m'interdis des choses », alors qu'en fait, c'est tout simple, finalement, quand on se fait confiance.
À tout problème, une solution.
Voilà, je vous remercie de cette conclusion, qui est donc de vous. Merci. Merci à tous, en tout cas. C'était super, j'ai passé une heure formidable avec vous. Merci infiniment. Merci à vous d'être fidèles à France 2. J'espère justement que cette émission va peut-être faire naître des vocations. Hein. C'est ça l'idée. On vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi. On se retrouve dans un instant, et puis demain, à 13h50. Je vous embrasse.
Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Après avoir connu un premier mariage de raison ou de convenance dans les années 70 ou 80, vous avez épousé par amour un nouvel homme. Votre second mariage n'a rien à voir avec celui que vous avez connu il y a 30, 40 ou 50 ans. Pour notre émission, vous avez connu plusieurs mariages et plusieurs divorces avec la même personne et aujourd'hui, vous êtes plus amoureux que jamais. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.